France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, les amateurs de madrigal connaissent bien le nom de Sigismondo d'India, cadet de Monteverdi et de Gesualdo, mais il profite peu de sa musique, peu de disques, peu de visibilité au concert. Sa vie reste d'ailleurs peu documentée et auréolée de nombreuses zones d'ombre. Restait, devrais-je dire, car Jorge Morales vient de consacrer un travail considérable à Sigismondo d'India. Tel un détective obstiné, il a suivi le compositeur à travers l'Italie, scrutant la moindre archive susceptible de faire la lumière sur ce musicien. Sigismondo d'India et ses mondes, un compositeur italien d'avant-garde, histoire et documents de Jorge Morales chez Brepols. L'ensemble Elima, dirigé par Gabriel Garrido, c'était Amorosi miei sol de Sigismondo d'India. Bonjour Georges Morales.
Bonjour.
Vous êtes musicologue et vous avez donc écrit cette somme que vient de publier Brepols consacrée à ce compositeur Sigismondo d'India, compositeur italien. J'ai dit en introduction donc cadet de Monteverdi. Monteverdi né en 1567 et d'India en 1582. On sait ça, déjà ça commence. On ne sait pas exactement quand il est né ni exactement où. Si, enfin vous.
Il est certainement né dans le sud de l'Italie, ça c'est sûr.
Ouais.
Moi, ma thèse, c'est qu'il est né à Naples, mais ouais. Lui il se présente comme noble palermitain.
C'est ça, oui.
Mais c'est un mystère. En tout cas, j'ai retrouvé dans les archives une trace d'une famille d'India à Naples, à Palerme, ouais. À la région de Palerme,
ouais.
Dans les années, au milieu du XVIe siècle. Donc, il y a une famille d'India qui existait à Palerme, mais il est certainement issu d'une famille napolitaine d'origine palermitaine.
Mmh. Donc c'est une génération, on va dire, à peu près après Monteverdi. Et votre livre, qui s'organise en deux parties, la première c'est plutôt le récit de sa vie très mouvementée, on va dire, il a énormément bougé. Et puis la deuxième partie regroupe tout un tas de documents, la correspondance, des préfaces, des épîtres dédicatoires, que vous présentez tous ces documents un à un et que vous recontextualisez. Venons-en donc à la première partie, à savoir... récit de la vie de Dindia que vous placez sous l'angle à la fois social, historique. Le compositeur, vous le considérez dans son environnement, mais vous regardez également l'environnement par le prisme de Dindia. C'est une sorte de regard à double sens. C'est un travail vraiment d'historien autant que de musicologue que vous avez élaboré, Georges Morales. Qu'est-ce qui vous paraît le plus marquant dans la vie, avant qu'on parle de la musique, dans la vie de Dindia? Est-ce que c'est le fait qu'il ait bougé autant? Parce qu'il y a à la fin de cette première partie, il y a une carte d'Italie où il y a des flèches vraiment dans tous les sens. On a l'impression qu'il n'y a quasiment aucune zone du pays qui ne l'a pas croisée.
C'était en effet un musicien voyageur, ce qui n'est pas particulier à ce compositeur. Tous les musiciens qu'il faut considérer comme une sorte d'artisan spécialisé, ils ont beaucoup de fonctions. C'est pas des artistes au sens romantique du terme. Ils voyagent beaucoup, ils vont de cour en cour à la recherche d'une cour, en fait, à la recherche pas d'un poste, mais d'une cour, d'un protecteur pour pouvoir produire et produire des événements sonores.
Mais est-ce que Dindia, de par son statut social, ne pouvait pas se dispenser de trouver des mécènes ou des patrons? Vous faites d'ailleurs la distinction entre les deux.
Il serait d'origine noble, ouais. Mais c'est une petite noblesse.
D'accord.
Il n'est pas noble comme Gesualdo.
D'accord.
Donc il cherche toujours à garder ce statut de noble. D'ailleurs, à la fin de sa vie, il sera fait gentilhomme du cardinal de Savoie.
Ouais.
C'est une noblesse de service, on va dire.
C'est
une noblesse. C'est un statut particulier pour un musicien, mais il n'est pas noble comme les nobles, comme les princes.
D'accord.
Pas prince. Alors, ce qui est intéressant dans ses multiples voyages, c'est qu'il dissémine la nouveauté musicale partout en Italie, du sud vers le nord, notamment à Turin, où il s'installe en 1611 au service du duc de Savoie. Et c'est là où il va trouver déjà une cour un peu qui commence à s'acclimater au nouveau style vocal, au chant soliste, et lui va développer tout ça, notamment le nouveau style qui est l'opéra, le drame chanté, le théâtre entièrement chanté, et c'est lui l'un des pères fondateurs de ce nouveau style. Et partout il passe, partout il est dans toutes les cours qu'il visite, il a une influence certaine.
Georges Morales, ce nouveau style qu'aurait propagé Dindia, est-ce qu'il est un des inventeurs de ce nouveau style ou il l'a appris?
Il l'a appris parce qu'il
auprès
est...
Auprès de qui alors?
Il y a une lettre qui le décrit comme élève des chanteurs romains. Donc il a appris certainement à Naples et à Rome, où il voyage au début du XVIIe siècle, dans les années 1608, par là, où il rencontre Caccini, il rencontre d'autres chanteurs napolitains très, 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 très connus, qui sont les inventeurs... du moins, on va dire, ceux qui mettent au point cette nouvelle manière de chanter, le chant soliste orné, accompagné.
Oui.
Et lui s'approprie cette manière de chanter qu'il rend d'une certaine manière plus sophistiquée. Et il accentue tous les, on va dire, les éléments expressifs de ce type de musique. Et c'est ça son rôle d'avant-gardiste dans l'histoire de la musique.
Thank you.
Un extrait du troisième livre de Madrigaux de Sigismondo d'India, interprété par la Veneziana. Georges Morales, revenons au titre de votre livre Sigismondo d'India et ses mondes. Alors, quels étaient-ils ces mondes ?
Alors, ces mondes au pluriel, oui. Puisque justement, ça veut dire en fait la société de cour, mm-hmm. et ce bouillon de culture, en fait. C'est le bouillon de culture de chaque cour, les différentes cours où il travaille, où il est au service des princes. Et j'ai voulu justement élargir l'étude de ce compositeur à un milieu plus large qu'uniquement un parcours linéaire de sa production musicale. Et donc ces mondes, c'est tous les personnages, tous les artistes, tous les princes, tous les hommes de lettres qu'il côtoie et avec lesquels il est en contact et qui vont influencer forcément sa musique et vice-versa aussi. Sa musique va influencer le monde dans lequel elle s'incarne.
Il évolue, oui, voilà. C'est ça. Oui. Et voilà. Justement, vous expliquez très bien, Georges Morales, comment l'artiste est à la fois perméable aux influences de son temps et également diffuse une influence face à ces autres artistes qui l'entourent. Et on n'est pas du tout dans l'image de l'artiste qui est tout seul, qui évolue totalement déconnecté du monde. L'image romantique, on va dire, du compositeur, on est loin de là à cette
époque.
Loin
de là. Ouais. Je parlais au début de l'émission d'un artisan spécialisé. Et le cas d'India est emblématique. Il est à la fois poète, musicien, chanteur, joueur de théorbe, il est aussi noble, donc et sans doute peut-être aussi il a eu des responsabilités diplomatiques. En tout cas, peut-être qu'il a eu l'intention de lui donner un titre de noblesse pour peut-être faire un agent de la cour de Savoie. J'ai pas réussi à le prouver, mais ça montre bien l'hétérogénéité, la diversité de fonctions d'un musicien à cette époque. Et l'India est un cas emblématique.
Ouais. On le connaît surtout, en tout cas, par le disque et un peu par le concert. Pour ces cycles de ces livres de Madrigaux, il en a composé 8, c'est ça ?
8, dont un qui est perdu. Donc on en a 7, ouais. Et le 7e livre est incomplet.
Et quels étaient les poètes que d'India mettait en musique ? Est-ce que c'était ceux de son temps ou est-ce que...
C'était les deux. Et là ça montre bien, ça rejoint l'idée d'avant-garde. Mm-hmm. Et que l'avant-garde, elle prend sa source dans le passé, forcément. C'est pas les novateurs sont novateurs parce qu'ils regardent, ils se tournent vers le passé. Alors d'India, il met en musique, bien sûr, Pétrarque encore, mais aussi des contemporains comme le Tasse, mm-hmm. et Marino, le cavalier marin, ouais. qu'il a rencontré à la cour de Turin, qui est un des poètes le plus novateur qui compose de la poésie pour la musique, destinée à la musique. Mmh. Et d'India, elle met en musique certains poèmes en avant-première, on va dire comme ça. Mmh. Et aussi, il met en musique ses propres poèmes. Mmh. C'est le cas des deux derniers livres de Monody accompagné. C'est d'India étant poète, lui-même écrit, met en musique ses propres poèmes.
Et comment expliquez-vous, Georges Morales, qu'on parle donc de ces 8 livres de Madrigaux, qui est peut-être la partie la plus connue, en tout cas, de sa musique, celle qui est enregistrée, si ce n'est de façon complète, mais en tout cas, il existe quand même quelques disques monographiques. Vous nous avez parlé tout à l'heure de drames musicaux, de monodies, ça c'est très 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 peu connu. Pourquoi, il y a des problèmes d'édition, d'accessibilité à la musique ?
Je pense que c'est un répertoire qui a été un peu mis dans l'ombre, parce que c'est le début de l'opéra. C'est le début du chanceliste, donc c'est encore en pleine évolution. La musique de d'India, ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est vraiment, ça montre bien que c'est pas encore de la musique tout à fait tonale, c'est pas encore tout à fait de l'opéra, c'est un entre-deux. Peut-être c'est difficile à comprendre encore ce type de musique, mais plus on la découvre, plus on se rend compte que c'est la base, en fait, de tout ce qui viendra après.
Ouais.
Mais je pense que ça, il y aura de plus en plus d'enregistrements de cette musique qui, il faut pas oublier, c'est du théâtre chanté. C'est la poésie chantée avant d'être de la musique pure. Donc ça véhicule les affects d'une langue et aussi une manière de, un art vocal qui commence à aller vers le mélodisme.
Tira, tira, tira.
C'était l'ami à Philippe Crudel par les Arts Florissants et William Christie. Une pièce de Sigismondo d'India, extrait de ses recueils qui s'appelle Les Musiques. Et il y en a cinq livres, c'est ça?
Cinq livres.
Qu'est-ce que c'est alors exactement ces œuvres?
Ce sont des monodies accompagnées, c'est-à-dire de pièces pour solistes, à une voix, parfois deux
parfois
voix,
deux, oui, c'est ça, ouais.
Accompagnées avec la basse continue. Et oui, c'est les débuts de la basse continue
c'est
aussi.
Ça, ouais.
Et on va dire l'une des obsessions de Dindia, c'est de rendre cette musique agréable à l'oreille, parce qu'on trouve très vite la monodie accompagnée ennuyeuse. Et donc, c'est par l'ornementation, la vocalité, et aussi l'expressivité de la basse continue que Dindia va faire évoluer ce genre musical.
Est-ce que, Georges Morales, est-ce que Dindia se rapproche dans son écriture de vocale de Monteverdi?
Par certains côtés, oui. Plutôt, il va dans la direction de Monteverdi, c'est-à-dire de faire de la parole, que la parole règne sur la musique. Et dans ce sens, oui, il est du côté de Monteverdi, même si, à la fin de sa vie, en 1627, il revient au style de Palestrina. Donc ça montre bien que la modernité n'est pas linéaire.
D'accord, ça montre bien
que l'avant-garde, elle a des allers-retours insoupçonnés.
D'accord. Alors justement, puisqu'on parle de l'œuvre de Sigismondo d'India, Georges Morales, on a parlé donc de ses cinq livres de musique et les huit livres de madrigaux. On a évoqué ces drames musicaux, donc des opéras, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Mais on n'en entend jamais, pourquoi?
C'est du théâtre entièrement chanté. Oui,
voilà, ouais, on ne les entend jamais.
Ils sont tous perdus, malheureusement. Ouais. Et c'est là...
Ni la musique, ni les livres, et plus rien.
Non, on n'a rien. On n'a rien. On les connaît par des documents d'archives.
Ouais.
C'est là où la recherche archivistique est intéressante, parce que ces documents permettent, d'une certaine manière, qu'ils parlent de musique sans vouloir.
Oui, c'est ça, oui. Donc justement, c'est au travers de vos recherches, parmi les archives, que vous avez pu mettre à jour ces différents titres.
D'où l'idée, toujours les mondes. On reconstitue le monde, et peut-être que là, on a des traces de musique qu'on n'a plus. Alors,
C'était essentiellement à Turin, c'est ça, je crois?
À Turin, sans doute, à Turin, parce qu'il y a eu une guerre très importante à la cour de Savoie à ce moment-là, donc beaucoup de spectacles sont annulés, mais c'est surtout à Modène, en 1626, et à Rome, il a composé un drame sacré en 1625, le Saint-Eustache, qui est perdu. Mais on n'a que des traces archivistiques. Malheureusement, on ne peut pas entendre sa musique.
Et il y a également de la musique sacrée, des motets.
Les motets concertants qu'il compose à la cour de Plaisance, dans la région de Parme. Des motets concertants, donc avec basse continue, à plusieurs voix. Mais à la fin de sa vie, c'est ce livre de 1627 où il revient au style sévère de Palestrina.
Polyphonique,
ça montre bien à quel point les mécènes, les dédicataires sont importants dans la production musicale, parce que c'est eux qui parfois donnent des orientations sur le style musical.
Oh,
Un extrait du troisième livre de Madrigaux de Sigismondo d'India par La Veneziana. Georges Morales, vous nous avez parlé justement des relations que d'India avait avec ses patrons, ses protecteurs, ses mécènes. Je ne sais pas exactement quel terme il faut employer. Comment se passait justement l'échange entre ces deux personnages? Est-ce que le mécène orientait le style du compositeur? Est-ce que le compositeur pouvait suggérer à son mécène différentes options? Comment est-ce que ça se passait?
Il y a les deux. D'accord. Il y a les deux. C'est dans les deux sens. En fait, ça montre bien le côté souple, en fait, du mécène, qui est plutôt un patron, plutôt un médiateur, en fait, entre les musiciens. Et ses fonctions sont multiples. Il peut commander des musiques. Il peut aussi être un garant symbolique. Ou le musicien peut aussi lui adresser des musiques pour qu'il considère qui sont des musiques à son goût. Donc il y a vraiment beaucoup de... C'est très hétérogène.
Ouais.
Mais en tout cas, ces patrons favorisent la circulation, favorisent l'échange, le croisement des musiciens, et dont, on va dire, le guide de leur mécénat est d'avoir une musique qui puisse avoir une fonction symbolique de leur pouvoir.
Alors, Georges Morales, comment se passait à l'époque en Italie, enfin Italie entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un pays, on le sait, la circulation justement de la musique, c'est quelque chose à laquelle vous avez consacré pas mal de place et d'importance dans votre travail justement. Ouais.
Alors c'est à travers la Société des Princes, c'est-à-dire les cours, les différentes cours. À cette époque, on commence à avoir des cours satellites, des nouvelles polarités urbaines, et donc tout ce qui existait déjà, c'est-à-dire l'échange des musiciens s'accentue. Et notamment à cette époque, à la fin du 16e, début du 17e, avec tous ces normes, des échanges, la transformation de la musique et une transformation inédite, alors ça s'accentue énormément l'échange et la circulation. Et donc c'est pour ça que cette période est particulièrement riche. Mais évidemment la circulation entre les cours, les rapports politiques, sociaux et culturels entre les cours sont très importants. Il faut les étudier pour savoir comment la musique s'insère dans ce monde.
Alors est-ce que ce sont les hommes qui circulent ou ce sont les partitions imprimées ou manuscrites qui circulent, ou les deux?
Les deux, mais ce sont d'abord les hommes.
D'accord.
La partition n'est pas le but de la production musicale. C'est important, c'est un objet. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de musique conservée, parce qu'il est imprimé, tout n'est pas imprimé. Ce qui est important, c'est la circulation des personnes qui vont produire des événements sonores. Et là, l'événement sonore aussi est très hétérogène, ça peut être intime, ça peut être public, ça peut être le théâtre qui commence à cette époque, le théâtre musical, ou ça peut être aussi au service du pouvoir politique, soit à l'église, soit à la cour.
Et là, à nouveau, la circulation des hommes, des musiciens en l'occurrence, peut se faire de différentes raisons. C'est soit le musicien qui décide d'aller à tel endroit, ou au contraire, le prince ou équivalent qui appelle
bien
un
sûr.
Musicien.
Soit il est appelé, soit il se déplace, comme d'India au début de sa carrière, soit il est appelé comme d'India à Rome, il est appelé par le cardinal de Savoie, à Modène aussi, il est appelé par le prince d'Est. Ou alors, et ça peut être temporaire, ça peut être dans le cadre d'une production musicale, c'est-à-dire d'une pièce qu'il faut monter, ça peut être aussi dans le cadre d'une publication. Donc tout est motif pour voyager.
Mais alors ces princes, cardinaux et autres mécènes, comment avaient-ils connaissance de ces compositeurs, de ces musiciens?
Souvent, dans les correspondances politiques, on trouve des allusions. C'est pour ça que c'est imbriqué. La musique est imbriquée dans ce monde politique et culturel. Les grands princes ont des musiciens, ils les montrent à l'occasion de fêtes, réunions académiques, banquets, etc. Et donc d'autres cardinaux, princes, etc. les entendent, et c'est comme ça qu'ils se font connaître. Ils en parlent, ils les font circuler de cette manière-là, ils sont recrutés et ils peuvent être recommandés aussi. Et donc c'est l'événement sonore, c'est l'événement musical qui est à la base de cette circulation musicale et donc de l'échange et de la transformation des répertoires.
Très bien, merci beaucoup Georges Morales. Je rappelle le titre de votre passionnant ouvrage, Sigismondo d'India et ses mondes, un compositeur italien d'avant-garde, histoire et documents, qui vient de paraître chez Brepol. S'il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Philippe Mercher, attaché de production Annick Aumier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.